Hey, je disais tantôt qu'on va jaser au prochain ministre ou à la prochaine ministre de la Famille pour parler de la DPJ. On vient de dénoncer de quoi tantôt, là, parce qu'on sera le 18 octobre, les membres du nouveau gouvernement caquiste. Préparez-vous. Oui, DPJ, Famille, ça va être des sujets chauds, mais je pense qu'on va beaucoup parler d'éducation. Êtes-vous d'accord?
Oui.
Parce que Legault a dit, hey, dans un débat, il a dit qu'il ferait de la politique juste pour la maternelle à 4 ans. Là. Puis le dépistage des enfants en bas âge. Alors, on va avoir un gouvernement très pro-éducation, ce qui est une super bonne nouvelle en passant. Moi, je pense qu'on est dû pour changer certaines choses au Québec. Alors, on a un rendez-vous prochain avec le ministre de l'Éducation. Mais, encore faut-il qu'on se base sur les vraies affaires. Il semble qu'il y ait beaucoup de mythes dans le monde de l'éducation. Des choses qu'on croit, qu'on est certain que c'est ça, ça marche de même, puis qu'on entend parler, puis souvent, hein, et ça pouvait reposer sur de quoi de solide, mais ça a été contesté par une autre étude ou d'autres choses, puis on a de la misère à suivre un peu. À matin, je propose une petite mise à jour, avant d'amorcer le grand débat sur l'éducation au Québec. On va aller rejoindre un professeur d'école secondaire à qui on a déjà jasé, qui est à la Courvilloise, mais qui est aussi auteur sur le blog des profs, qui nous propose une petite revue de certains mythes en éducation. Sylvain Dancause, bon matin.
Bon matin, M. Bouchard.
Ben, ça va?
Ça va très bien, ça va très bien. Toujours un peu difficile après un congé de 3 jours, là, mais...
Ouais, de
ça va, on se réveille tranquillement pas vite.
Même affaire pour nous également. Alors, d'abord, c'est une bonne nouvelle hein, quand on parle d'éducation. Vous êtes d'accord avec moi que sous le gouvernement Legault, là, je veux pas qu'on rentre dans tous les détails, mais on devrait parler plus d'éducation, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Encore faut-il qu'on en parle sur des bases solides. Alors, il y a des mythes en éducation, beaucoup. Quels seraient les plus importants?
Ben en fait, il y a différentes catégories de mythes, je vous dirais. Oui. Là, il y a une grande catégorie de mythes qu'on pourrait appeler les neuromythes. Fait que ça, pour ceux qui nous écoutent, les neuromythes, en fait, c'est une croyance qui est relative au cerveau puis au fonctionnement du cerveau. Et puis dans ces neuromythes-là, en fait, le plus fréquent, je vous dirais, c'est celui sur les styles d'apprentissage. Fait qu'on fait un peu de lecture, là, on se rend compte que bon, il y a peut-être une classification qui existe. En fait, il y en a peut-être 70 classifications qui existent. Mais il y en a une qui est très courante là, dans la vie de tous les jours qu'on entend dans les écoles également. Là, c'est le style d'apprentissage là, qui serait ben mon élève est visuel, mon élève est auditif oui. ou mon élève est un kinesthésique. Donc, il apprend par la manipulation, par exemple.
Mais ça, on entend ça pas juste à l'école, on entend ça sur les milieux de travail. Des individus vont se dire, moi, je suis visuel, mais il faut que je vois, sinon j'apprends pas. Puis d'autres vont se dire auditif.
Ben exact. Hier, j'étais en formation, justement, j'avais un colloque de hockey, puis la personne qui me donnait la conférence sur le hockey, sur les façons de préparer une pratique, disait, ben quand vous parlez aux jeunes, n'oubliez pas que vous avez des visuels, des auditifs devant vous, fait qu'il faut que votre enseignement ça s'adapte à ces styles-là. J'avais des collègues dans la salle des enseignants la semaine passée qui discutaient ensemble, puis là, il y a une collègue qui disait, ah, viens me le montrer, là, viens me montrer ta feuille, là, moi, je suis visuel, là, je comprends pas ce que tu me dis. Là. Fait que je vous dirais que c'est des choses qu'on entend régulièrement. Puis il y a des nuances à apporter là-dedans. Là. Dans le fond, les styles d'apprentissage, il n'y a aucune étude, il n'y a aucune confirmation que ça existe. Hein? Donc, mais pourquoi s'il n'y a aucune étude qui existe, comment ça se fait qu'on croit ça, en fait? Ben, ouais. Je vous dirais que c'est un peu rassurant de croire à ça, là, dans le sens où on veut aider notre élève, on veut différencier notre enseignement, fait qu'on aimerait ça que tout le monde comprenne. Puis là, ben le fait d'avoir des styles d'apprentissage, ça peut nous rassurer dans notre façon d'aborder l'élève.
Mais il n'y a rien de vrai là-dedans? Ça repose sur aucune étude scientifique qu'il y a des gens plus visuels ou auditifs. Il n'y a pas de différence?
Ben en fait, non. Il y aurait une nuance à apporter. Ouais. C'est que les gens ont des préférences. Donc vous pouvez me dire... Ouais. Ben moi, j'ai une préférence. Je préfère quand on m'explique avec un schéma ou avec un dessin ou quand je le vois à la télé, peu importe. Là. Mais ça, c'est une préférence. Là. C'est pas un style d'apprentissage là, qui est documenté. En fait, ça existe pas. Puis pour les enseignants, le fait de baser son enseignement sur un style d'apprentissage comme ça, là, c'est de faire fausse route. En fait, c'est la question qu'il faut se poser comme enseignant, c'est quoi une bonne stratégie d'enseignement? Comment je devrais enseigner? C'est sûr qu'il faut se poser la question, là, mes élèves devant moi, là, on va se le dire, sont différents, mais ils sont pas différents parce qu'ils sont visuels ou auditifs. Là. Ils sont différents parce que bon, ils vivent toutes sortes d'affaires, ils sont pas au même endroit. Puis oui, je dois différencier mon enseignement, puis je dois varier mes méthodes d'enseignement pour créer de l'engouement, de l'intérêt, motiver mes jeunes, tout ça c'est correct. Mais de dire, je vais préparer une leçon aujourd'hui parce que là, pour mes visuels, parce qu'il faut pas que je les oublie, ben ça c'est une erreur de faire ça, là.
Hey, puis c'est du temps là-dedans. On doit consacrer beaucoup de temps. On va parler maintenant, ça c'est les neuromythes. Parlons maintenant de la gestion de la classe. Relation prof-élève. Ça aussi, on entend, là, je vais le résumer un peu, peut-être le mythe. C'est bien, bien important qu'il y ait des conséquences. Ça veut dire, j'imagine, de quoi? Là, si l'élève fait quoi de mal ou tout ça, qu'il y ait une conséquence, est-ce que c'est bien ça?
Ben oui, en fait, mais juste pour revenir, si ça vous dérange pas, sur le visuel auditif, là.
Oui.
Quand on apprend à lire, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des mots étiquettes. Donc, les élèves voient une image, puis apprennent le mot. Exemple, si je vous dis le mot sapin, mais là, vous auriez une image du sapin, puis là, vous voyez que c'est écrit en dessous sapin, puis là, vous apprenez les mots comme ça. Puis ça, c'est une dérive là, de la méthode visuelle, là, de dire, là, à mon élève va apprendre parce qu'il va voir le mot. Là, c'est pas une bonne stratégie, mais pas du tout d'enseignement. Fait que ça serait une dérive possible. Quand on apprend à lire, il faut apprendre la mécanique, il faut apprendre le décodage, il faut apprendre les syllabes, la phonétique. Ça, c'est une bonne méthode qui est efficace. Donc, ça n'a rien à voir avec les auditifs, les visuels. C'est quelle est ma meilleure stratégie d'enseignement.
OK. Mais encore une fois, c'est basé sur la fausse croyance envers les visuels puis les auditifs. Là. Ça vient de
exact,
là.
Exact. C'est que ça peut amener certaines dérives. Pour ce qui est de la gestion de classe, ben comme vous dites, là, des fois, on a comme tendance à penser là, que la conséquence va régler le problème, là, puis que là, ça va être instantané. Là, on est comme parents, là, j'ai trois enfants. Là, des fois, on pense que la conséquence va régler le problème, puis que ça va donc bien aller, là, puis va-tu finir par comprendre? Ça fait deux fois que je donne une conséquence, à un moment donné, il va comprendre.
Si tu ne fais pas tes devoirs, il va arriver ça. Si tu te comportes, en tout cas, bref, il y a une conséquence à tous les gestes là, que tu poses.
Exact. Mais comme enseignant, la conséquence de notre gestion de classe, ça, c'est à peu près 10% de l'emprise qu'on a là, sur la gestion des comportements là, des élèves qui ont des troubles. 40% de notre efficacité, en fait, va venir du lien qu'on a avec l'élève. Donc, créer un lien prof-élève, ça, c'est indispensable. C'est ça qui va avoir de l'impact sur notre gestion de classe, en fait. La conséquence, c'est à peu près 10% de notre emprise sur les élèves. Là. Ce qui fait que c'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Puis pour changer un comportement, généralement, il faut espérer là, travailler là-dessus pendant une trentaine de jours minimum. Donc, quand on croit qu'on va dire quelque chose à quelqu'un, à un élève, par exemple, ou à un autre enfant, puis de penser que tout d'un coup, là, ça va changer du jour au lendemain, puis mon Dieu, que ça va donc bien aller, là, il va falloir travailler un petit peu plus que ça. Là. Ça va prendre un minimum de 30 jours, puis peut-être qu'il y aura un changement de comportement si on reste cohérent, si les règles sont précises, puis si on persévère, justement, dans le fait qu'on veut ce comportement-là.
Ça veut dire que, dites-moi si j'ai bien compris, là. Moi, honnêtement, j'étais peut-être un peu de l'ancienne école. Ça veut dire que le jeune, là, si on lui dit, garde, si tu fais pas ça, là, je vais t'envoyer dans le coin, ou tu vas être pénalisé, tu n'auras pas telle récompense, activité extérieure, sportive. Je ne sais pas quelles conséquences on peut donner. Le jeune, si je le menace, autrement dit, d'une conséquence parce qu'il n'écoute pas, j'ai 4 fois moins de chances d'avoir du succès que si j'ai déjà en partant une bonne relation avec lui, il me fait confiance, ça va bien, il va m'écouter plus s'il a confiance en moi que s'il a peur d'une conséquence. Est-ce que j'ai bien compris?
Ben, vous avez très bien compris. C'est exactement ça. Puis aussi, dans nos interventions, il faut rester le plus positif possible. Généralement, là, ce que la recherche nous dit, là, c'est un ratio 3 pour 1, commentaire constructif ou commentaire un peu plus négatif, là, comme « bon, fais pas ça, ça c'est négatif ». Mais si tu peux le tourner d'une façon un peu plus positive, normalement, le ratio en classe devrait être de 3 commentaires positifs pour un commentaire qui est un peu plus, je dirais, entre guillemets, négatif, là.
OK. Donc, on peut, avec ça, avoir de bien meilleurs résultats. Parlez-moi des notes maintenant. Ça, il y a un gros débat sur les notes. Est-ce que, bon, c'est si important? À un moment donné, on s'entend qu'il y a toutes les écoles de pensée là-dedans. Là, il faudrait quasiment pas qu'il y ait de notes. Il y a des pays en Scandinavie qui donnent pas de notes avant tel âge, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau sur les notes? Quels sont les principaux mythes concernant les notes?
Ben le fait de penser qu'une note ça dit tout en fait, là. Le fait de penser que le culte de la note, là, de penser là que si je dis à un élève être à 70%, ben que là ça arrête la discussion, puis que de là ça arrête, là, il passe, on est correct, il y a plus que 60%, on est heureux, tout va bien. Faut aller un petit peu plus loin que ça là. Puis ce qui est vraiment important pour l'élève, c'est de donner de la bonne rétroaction. Puis pour un élève 70%, honnêtement, puis j'ai eu des élèves de 5e secondaire, là, même des élèves de 16 ans que ça va bien à l'école. Tu dis 70%, ah ben je passe. Puis là, ça arrête la réflexion. Mais c'est de savoir après ça, OK, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je dois travailler? Comment je peux faire pour m'améliorer? Ça, c'est de la bonne rétroaction. Puis l'élève est trop jeune, il n'est pas capable de faire l'inférence puis d'aller chercher cette information-là lui-même. Fait que comme enseignant, ben il faut aller plus loin dans le feedback. T'sais, donner une note à un élève, c'est pas un feedback, là. C'est juste une note, point final. Puis si on veut l'amener plus loin, mais il va falloir travailler avec de la rétroaction de qualité. Donc, d'aller cibler pour lui ce sur quoi il doit travailler.
Oui, pas. C'est vrai qu'une note, c'est juste un chiffre, là. Puis souvent, on a tendance à, comment je pourrais dire ça, à s'en contenter un peu, là. L'expression, j'ai passé, là. Hey, tel cours, ouais. Comment ça a été? Ben, je passe. Ouais, exact. Tu passes. Mais ça veut-tu dire que, qu'est-ce que ça veut dire que t'as, ça veut dire que t'as eu la note suffisante de passage. Ouais. Ça veut pas dire que, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as changé? Qu'est-ce que ça a modifié chez toi? Qu'est-ce que, c'est juste une note. C'est tout. Ça veut dire que t'as bien répondu au test. That's it. Donc, c'est pas suffisant en termes de feedback.
Ben, exactement. Comme moi, je m'attends, j'ai un élève en mathématiques qui va avoir, exemple, 75. Bon, il y a 75, il est content, il a passé. Bon, peut-être que ça fait son affaire, mais après ça, bon, le 25% que tu as raté, c'est quoi? OK, ben, c'est toujours le même type de problème que tu rates. Ça veut dire que ce 25%-là, il est très précis. Puis il y a quelque chose que tu n'as pas compris, puis c'est récurrent. Là, cette erreur-là revient toujours. Fait que si je la corrige pas immédiatement, elle va se cristalliser. Puis à un moment donné, c'est très difficile de défaire un apprentissage comme ça qui est tout croche. Fait qu'il faut intervenir le plus rapidement possible. Puis l'élève, il s'en rendra pas compte. Si tu lui dis pas, il est pas capable de faire l'inférence. Puis de dire, ah oui, c'est vrai, les quatre problèmes que j'ai ratés, c'est toujours le même style, donc je ne comprends pas ça. Fait que là, il faut l'aider, cet élève-là, puis il faut aller lui dire. Puis là, mais il faut l'écrire, faut aller le voir, faut lui parler, faut écrire des notes sur sa copie. Donc, juste la note, c'est pas suffisant. Là.
J'ai hâte de voir vers quoi va s'orienter la CAQ. J'ai l'impression qu'on aura l'occasion d'en rejaser de l'éducation beaucoup, mais moi, je retiens, en tout cas, de ce qu'on a fait un peu, du petit tour d'horizon qu'on a fait ce matin, que vraiment, les enseignants et les enseignantes sont au cœur de la réussite des enfants. C'est vrai que vous êtes important, là. Que ce soit, vous avez parlé de la relation prof-élève qui était bien meilleure que n'importe quelle punition ou que conséquence. Comment il faut adapter son style d'éducation. Comment il faut donner, faut pas juste être des donneux de notes puis des corrigés d'examen. Excusez, là, je sais que c'est pas des mots, là, mais il faut être plus que ça. Il faut donner du feedback. Alors, finalement, il y a des erreurs. Je sais pas faire des erreurs de français quand on parle d'éducation. Là.
Non, mais on comprend le sens de ce que tu veux
mais
dire.
Mais oui, que ça. Le prof est important. Sylvain Encausse, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. On aura l'occasion de s'en jaser. Merci.
Merci
à vous. Sylvain Encausse est auteur du. Ça s'appelle le blog des profs. Il enseigne ici à la Courvilloise. Alors, il nous parlait de certains mythes en éducation. Moi, visuel auditif, honnêtement, j'étais sûr que ça existait.
Mais moi, j'ai
il y avait deux sortes de. Il nous dit que non.
Oui, tu as des auditeurs qui nous écrivent au 25-226 aussi, non. Qui sont convaincus qu'ils sont un des deux. Là.
Tu peux avoir des préférences. Non, oui. Mais il nie pas ça, tu as des préférences. Mais quand vient le temps de transmettre le savoir, l'éducation, faut pas que le prof, tu sais, les mots étiquettes puis tout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les notes. Oui, c'est important, les notes, mais il faut pas juste s'asseoir de la compétition, puis il faut pas que ce soit suffisant, faut qu'il y ait autre chose. Les conséquences, moi, j'avais tendance à croire à ça aussi. Mais c'est logique ce qu'il dit, là. Dans le fond, si tu fais pas de quoi juste parce que t'as peur d'une conséquence, t'as-tu vraiment appris de quoi?
Ouais.
T'as-tu vraiment intégré de quoi une notion, une valeur, un comportement où, tu sais, ça fait animal un peu, ça fait chien de Pavlov un peu, là.
Ouais,
tu sais, il faut pas que je fasse ça parce que j'ai une conséquence. Lui, il dit, puis il a raison. Tu sais, je pense à des profs, moi, dans des classes où j'étais un peu turbulent. Sérieusement, j'avais pas peur des conséquences. C'est juste que le prof était pas bon. Parce qu'il y en a des mauvais. Un bon prof a jamais eu besoin de me menacer. D'abord, s'il est captivant, si on apprend, t'as pas besoin de me dire, un gars, il va arriver ça, si tu fais pas ci, moi, de faire ça, moi, de faire. Tu sais, les menaces, à un moment donné, c'est comme ça à faire.
T'en dirais que j'aimerais ça entendre les enseignants sur ce qu'on vient d'entendre avec Sylvain Dancause, parce que je suis pas sûre qu'ils pensent tous la même chose. C'est sûr qu'ils ont pas la même vision, puis ça doit être intéressant de voir. Puis en même temps, intéressant, oui, puis en même temps, on se pose des questions à se dire, attends un peu, est-ce qu'il devrait avoir plus de formation ou des choses comme ça pour les enseignants pour qu'on s'uniforme?
Je te suis tellement, moi, j'aimerais ça aussi savoir ce qu'ils pensent. Ben, 25-226, sais-tu pourquoi? Parce que au cours des dernières minutes, c'était rien de révolutionnaire ce qu'on vient de faire là. Moi, j'ai adoré ça. C'est juste pour mettre la table parce que je pense que l'éducation, on va en parler beaucoup. Puis, on vient de parler de la compétence. Dans le fond, là, tout tourne autour de est-ce que le prof fait bien sa job? Est-ce qu'il a bien les bonnes études, les bonnes compétences? Or, au Québec, malheureusement, ça, je le déplace, c'est pas juste en éducation, c'est même en ingénierie, en transport, en santé. Et on parlait de la DPJ tantôt. C'est jamais qu'on parle de la compétence des gens au service de l'État puis des gens qui nous donnent des services. On parle juste d'argent. Est-ce que ces gens-là sont assez payés? Est-ce qu'il y a assez d'argent dans la machine? Pendant 38 jours, on a fait une campagne électorale presque uniquement là-dessus. Combien de sous on va pomper dans la machine pour la nourrir? Et là, matin, on n'a pas parlé d'argent. Il n'y a pas été question de fric, là. Remarque, moi, je suis un de ceux qui dit qu'on devrait payer plus les profs. Ça... Oui, à un moment donné, là, il faut leur donner un bon salaire. Mais là, on a juste parlé de technique, de compétences. Tu sais, c'est comme si vous me disiez que j'ai pas moi dans le sport et c'est pas juste une question de salaire. Oui, c'est important, les salaires. Mais à un moment donné, il y a autre chose que ça, là. Tu sais, c'est comme ça, un coach. Mettons qu'un coach perd. OK, Puis à chaque point de presse, il dit ben, besoin d'argent, j'ai pas assez d'argent, donnez-moi de l'argent, veux de l'argent. Maintenant, les journalistes vont dire donc, ben, cave, là. Pogne les joueurs que t'as là, puis commence donc par leur enseigner une coupe d'affaires comme faut. Puis bon, c'est pas juste du cash, regarde, du cash, t'en as. En plus, c'est l'équipe la mieux payée. Imagine-toi le coach. L'équipe la mieux payée, puis il se plaint. Au Québec, c'est là qu'on met le plus d'argent en éducation et en santé au Canada. Personne ose dire ça. Je l'ai dit, moi! C'est ici qu'on en donne le plus. Alors, peut-être que c'est la compétence qu'il faut jaser, Elisabeth.
Juste un texto qui vient d'entrer, parce que je trouve intéressant. Isabelle nous dit « Je suis d'accord avec le spécialiste de faire attention sur le style d'apprentissage. Par contre, pour avoir formé beaucoup de formateurs, donc ceux qui allaient éventuellement donner des formations, ils enseignaient, ils formaient selon leurs préférences d'apprentissage à eux. Par exemple, ils sont auditifs ou ils pensent qu'ils sont, alors ils vont enseigner selon cette méthode-là qui n'était pas du tout adaptée au groupe ou au sujet parfois. » Fait que oui, c'est bon de former des enseignants pour ça, parce que c'est pas parce que toi, tu te dis visuel, même si on sait maintenant que c'est, ça n'existe pas vraiment, mais tu vas enseigner d'une certaine façon, ce ne sera peut-être pas adapté au groupe que tu vas avoir, là.
Alors, est-ce qu'il y a au Québec un institut d'excellence en éducation? Est-ce qu'il y a de quoi là, pour les former une fois qu'ils ont leur diplôme? Là? Y a-t-il de quoi pour avoir les meilleurs profs? On va reparler de ça. Continue à m'écrire 25226.